Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago numéro 1282 en ce samedi 7 juin. J'espère que tout le monde va bien. Tout le blues actuel avec un petit œil dans le rétro. Chaque samedi, c'est Sweet Home Chicago. Marc Loison avec vous pour 2 heures de blues sur le 666. Dans ce 1282e numéro, le nouveau disque du mois intitulé Lookout Highway est signé Charlie Musselwhite. Ce sont 11 titres superbes enregistrés à Graceland avec la crème du blues californien d'aujourd'hui. Keith Anderson et Matt Stubbs aux guitares, Randy Bermudez à la basse, June Cor à la batterie, Al Capone au chant sur un titre et Edna Luckett au chœur également. Vous en entendrez 2 titres aujourd'hui. Chicago. Quelques nouveautés vous attendent également avec John Primer, Olivier Mas, Adi One Woman Band et La Bedoune. Le 57e numéro de Beatles Sanctuary, comme en début de chaque mois, vous propose de passer une demi-heure en rock et en blues avec Your Blues, enregistré par The Beatles en 1968, autour duquel, avec Jackie Emery bien sûr, nous reviendrons sur une flopée d'artistes de génie, The Rolling Stones, Bob Dylan, Derek and the Dominoes avec Eric Clapton bien sûr, John Mayall, Johnny Hooker et Carlos Santana, Chuck Berry, Pink Floyd, et puis quelques réunions dont le 20e siècle avait le secret, par exemple le groupe éphémère Dirty Mac, qui ne dura que le soir du 11 décembre 1968 avec John Lennon des Beatles, Eric Clapton de Cream, Keith Richards des Rolling Stones et Mitch Mitchell du Jimi Hendrix Experience. Et puis également un extrait de l'incroyable live Run Devil Run de 1999 qui réunissait notamment Paul McCartney des Beatles, David Gilmour de Pink Floyd et Ian Paice de Deep Purple. Donc un Beatles Sanctuary qui décoiffe aujourd'hui. Et puis la rubrique des incontournables qui revient avec Vincent Pierre-Marie Legrand qui nous propose de repartir en 1970 avec le Fleetwood Mac d'origine qui comprenait encore Peter Green pour un extrait de leur mythique Live in Boston. Vous êtes prêts ? Sweet Home Chicago numéro 1282 sur le 666, c'est parti. Long gone. Monsieur Charlie Messelois, disque du mois pour le mois de juin, pour Sweet Home Chicago sur le 666. On poursuit avec quelques nouveautés. Là, d'abord un titre très court, extrait de Grown in Mississippi. Il est tout seul, monsieur John Primer, et ça s'appelle John Blues Holler.
Oh, you know I don't got time. Lord, you know I don't got time. I done got tired of working so hard. Work all day long until the evening come. I be so tired when I get home. All I could do is lay this old tired body down. Sometime I work, I get up and go to work. I work in the field, picking that old cotton, dragging that old 9-foot cotton sack. I fill it up, have to carry it on my back. And sometimes I be so tired and hungry, I don't have no food to eat. Sometimes I didn't have no shoes on my feet. Oh, you know, I can't take this anymore. I got to leave here. Down that old road, I will go.
Voilà, vous en saurez plus si vous écoutez le Moonshine Blues numéro 96 de Dan Zerotti à propos de John Primer et à propos de cet album Grown in Mississippi dans lequel il a invité Bobby Rush, Charlie Musselwhite, Watermelon Slim, Eden Brent, Lightning Malcolm et quelques autres. On poursuit avec une autre nouveauté qui nous attend depuis déjà plusieurs semaines dans les bacs de Sweet Home Chicago, mais actu oblige et puis interview oblige. Ça n'a pas pu être diffusé avant. L'album s'appelle One Man Swamp Boogie, mieux vaut tard que jamais. Il s'appelle Olivier Mas et voici No Fun.
No fun, my baby, no fun. No fun, my baby, no fun. No fun to hang around, feeling that same old way. No fun to hang around, freak out for another day. No fun, no fun, no fun, no fun, my baby, no fun, no fun, my baby, no fun, no fun to be alone, walking by myself. No fun.
Olivier Mas avec No Fun, extrait de One Man Swamp Boogie après John Primer au sud des États-Unis. On est reparti dans le sud de la France. On va remonter un petit peu, puis sachant qu'il y a du blues français, pas que en anglais d'ailleurs, dans cette émission. Et puis j'avais omis pendant la présentation de ce 1282e Sweet Home Chicago de vous préciser que l'invité de la deuxième heure, c'est Nicolas Dehay du groupe The Mockingbirds, dont on écoutera de larges extraits de leurs 8 titres. Voici maintenant Adi One Man Band, dans un titre qu'elle nous joue depuis un bon petit moment maintenant sur scène et qu'elle a introduit dans ce nouvel album qui s'appelle One Woman Band. C'est Johnny the Rapist. Écoutez-moi ça.
Johnny is a man like every other man. On his hands, he loves women like a straight guy does. It's stronger than him, well, he's got to know. We call him Johnny the Rapist. Everybody knows tricks. Last night he came to Mrs. Jones. He came to me too, and he poisoned my bones. As a kid, I get to lay down, and all I've got to do was simply moving on. A 12-year-old girl, all drained and beat up, this is bullet to my head. I can't remember his name, but I'm stuck in this place. I'm stuck in his hands, stuck in a game of the madman rules. I'm feeling insane, I'm feeling ashamed.
Il va progressivement dans cette émission, vous en êtes rendu compte. John Primer tout seul au chant avec quelques percus derrière, Olivier Mas guitare chant en one man band, Adi en one woman band, et puis là La Bedoune qui nous revient avec son nouvel album Roue de Fortune. Voici le titre album, le bilan un petit peu d'une vie qui est loin d'être terminée bien sûr, mais sur lequel j'ai déjà un regard rétrospectif. Cécile Perfetti, voici La Bedoune.
T'as vraiment accompli. Tes enfants ont grandi, tes idoles ont vieilli. Ça ressemble à une femme partie. Tes rides au coin des yeux, ton âme qui vire au bleu. Qu'est-ce que t'aurais pu faire de mieux? Et puis j'essaie de vivre chaque jour comme le dernier. Je carbure aux doses d'amour reçues et données. Et même si ma roue de fortune n'a pas bien tourné, je lui fais des pieds de nez. Je m'en accommoderai. J'ai fait dans la paillette le miroir aux alouettes. Je me suis même rêvée en starlet. J'ai mis des illusions, pas mal de déceptions. Qu'est-ce que j'ai pu tourner en rond? Mais regardez derrière, ça laisse un goût amer. Je me demande à quoi ça sert. Et puis j'essaie de vivre chaque jour comme le dernier. Je carbure aux doses d'amour reçues et données. Et même si ma roue de fortune ne veut pas tourner, je prendrai d'autres sentiers. Je l'ai déjà fait. Bien cela, grive d'âme, vous voulez bien. Si tu veux bien rester encore à m'écouter, moi je continuerai à chanter. J'essaierai de vivre chaque jour comme le dernier, avec mes doses d'amour reçues et données. Et quand ma roue de fortune aura cessé de tourner, sur mon dernier couplet, le rideau pourra tomber. Oh, oh, les yeux je les fermerai. Et je
La Bedoune avec Roue de Fortune, c'est le titre de leur album et on n'a pas fini de l'entendre dans Sweet Home Chicago. Voici Beatles Song Story numéro 57 avec Jackie Emery. Beatles Song Story numéro 57 avec Jackie Emery. Salut Jackie, tu vas bien?
Bonjour Marco, très bien.
Bon, merci. Débarquement hier, c'est bien passé?
Très très bien.
Les cérémonies comme d'hab. Bon,
voilà.
C'était 81 ans quand même, hein, ça ne rajeunit pas tout ça. En Normandie, on y pense souvent. C'est vrai qu'en discutant avec des gens qui ne sont pas de la région ou des Américains, il y a toujours cette référence à la Normandie. Quand tu dis que tu vis en Normandie, à des Anglais ou à des Américains, ils voient tout de suite où tu es. Parce que, j'ai envie de dire grâce, entre guillemets, à 1944. C'est un repère hein, pour les gens quand même.
Ouais. Moi, je me souviens d'une anecdote. Une fois, j'étais à Istanbul et dans un café, on discutait avec des gens qui se trouvaient dans le café, des Kurdes en l'occurrence. Et on essayait de leur expliquer d'où on venait en France. Alors, je me suis dit, la référence, ça va être le débarquement. Alors, je leur explique, débarquement, les Américains, la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et ça leur parlait pas du tout.
Tu as dit Platini au bout d'un moment.
Non, figure-toi que la référence, ils avaient deux références pour la France.
Ouais.
C'était Dalida et François Mitterrand, pour une raison qui était politique par rapport aux Kurdes. Voilà.
D'accord, très bien.
Bon, ben, on a la référence qu'on peut.
Non, parce que quand tu dis Platini, Tour Eiffel, enfin à l'époque, hein, Platini, maintenant ça serait plutôt Mbappé. Mais...
Ah oui, plutôt, hein effectivement.
Et pour les Anglais, voilà, pour les Anglais, ben, la Normandie, ça reste un havre de paix. Il y a beaucoup d'Anglais chez nous, hein, on ne le dit pas assez souvent, mais il y a une radio. Nous, ici, on est à Radio 666, mais Radio 666 abrite également WRNC, qui est une radio entièrement anglophone pour les gens qui habitent en Normandie. Et ça, c'est important pour les gens ici.
Ben, c'est vrai que quand tu traverses la Manche, de ce côté-là, t'arrives toujours chez nous.
Ouais, c'est sûr. Puis on n'a plus Radio Caroline.
Absolument.
On revient à nos Beatles parce que c'est quelque chose qui nous intéresse déjà depuis un petit peu plus de 3 ans. On en est au 57e épisode. On va finalement arriver à avaler les 230 et quelques chansons. Il va nous falloir encore quelques années, Jackie, mais t'as pas l'intention de faire comme John Lennon, de te suicider le matin et le soir?
Non, pas du
tout.
On
va pas faire ça tout de suite.
Non, pas encore. Non, tout va bien encore.
Là, tu vas nous emmener dans un truc absolument cauchemardesque et blues, ou mais blues.
Oui. Donc aujourd'hui on va parler de Year Blues, cette chanson sur l'album blanc, hein, le double blanc, le Beatles comme on l'appelle en Angleterre, qui est sorti le 22 novembre 68. Donc Year Blues est une chanson de John, entièrement de John quasiment, même si évidemment les autres ont participé, mais c'est bien une de ses chansons. C'est enregistré le 13, 14, 20 août dans les studios d'Abbey Road, le studio 2 et 3. Le nombre de prises 17.
17 ouais, prises en 3 prises, jours.
Ouais. Donc toujours à la propre George Martin et Ken Scott qui sera l'ingénieur du son.
D'accord.
Alors quand je dis que c'est enregistré dans le studio 2 et 3, c'est pas tout à fait exact. Car en effet, les Beatles, qui étaient toujours à la recherche de son nouveau, décident d'enregistrer le 13 août, non pas dans le studio 2, mais dans la petite cabine à côté de la régie, hein, qui sert à entreposer des bandes. Une pièce de 3 mètres sur 2. Paul a demandé à George Martin, on peut enregistrer là-dedans ? Martin a répondu quoi, tout le groupe? Et il dit oui, tout le groupe. Alors ils se sont retrouvés serrés comme des sardines dans cette petite
avec la batterie,
avec tous les instruments, les amplis. Fou, les amplis étaient tournés contre les murs pour éviter que ça prenne trop de place au niveau du son.
Ouais.
Voilà. Paul McCartney dit on aimait aussi être très proches les uns des autres. On sentait que ça rajoutait à la puissance. Et Ringo en garde un très bon souvenir d'ailleurs de cet enregistrement. Et c'était nous quatre, il dit, tout le groupe ensemble, bien serrés. Par rapport au blues, alors donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans la dernière émission, je t'ai dit que j'avais entendu une déclaration qui m'avait fait bizarre et que je n'avais pas comprise, et donc je te donnerai peut-être ma solution.
Oui, on est toujours en plein suspense depuis un mois, je te dis.
Ah bah oui, c'est insoutenable.
Je sais pas comment les gens ont fait.
Je te dis pas comment que les gens ils attendent aujourd'hui. Ouais. Donc je donnerai peut-être la réponse.
Même pas sûr.
Oui, voilà.
Il est impitoyable.
En fait, on parle souvent de... Il y a une des références que je mets souvent en avant dans nos émissions, c'est celle de la sortie du triple album Anthologie.
Oui, hein, alors là, on est vers 96, 97, 98.
Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, ouais. Où, à un moment, Paul fait une déclaration, je le vois encore, je crois qu'il est dans un bateau, un petit bateau. Je ne sais pas, même pas si on lui a posé la question, mais voilà ce qu'il dit. Il dit, off, les Beatles, au fond, c'était quoi? Il attend un peu, puis il dit, juste un bon petit groupe de blues.
Ouais.
Alors là, ça m'a parlé, parce que nous avons une petite discussion avant cette émission sur une sorte de définition qui n'est pas toujours simple de ce qu'est le blues. Enfin, dans ma tête, le blues a certains critères en termes d'accords, de structure, voilà, musicale, etc., ouais, qui fait qu'on identifie tout de suite le blues. Et dans mon imaginaire de musicien, le blues, je vois ce que c'est. Évidemment, pense pas du tout quand on peut définir un groupe comme les Beatles en disant c'est un groupe de blues.
Ouais.
On pourrait parler des Rolling Stones, surtout dans leur début. On pourrait les définir effectivement comme un groupe de blues.
Tout à fait ça, on en avait discuté avec Jacques Perrotte dans un Blues Héritage, et on était bien d'accord avec Patrick Payard également, comme quoi les Rolling Stones, c'est un putain de groupe de blues,
voilà,
mais plus imprégné encore que les Beatles.
Absolument, oui. D'ailleurs,
tout au moins à première vue.
Oui, oui. D'ailleurs, ils ont ressorti un album des chansons qu'ils aimaient.
Oui, un hommage au blues, finalement.
Au blues, où là, on a un vrai album
et
blues.
Il y a un disque entier de blues des Rolling Stones qui est sorti en 2016, qui s'appelle Blue and Lonesome.
Et ben, c'est celui-là que dont je parle.
Moi, je pensais que tu parlais d'un autre album composé de morceaux de bluesman, mais compilé par Mick Jagger. Mais ouais.
Je parlais de cet album qu'ils ont fait ou qu'ils ont enregistré. Je suis en train de me demander si c'est pas Abbey Road qu'ils l'ont enregistré, mais je suis pas sûr. À vérifier. Cependant, je crois que c'est Abbey Road parce que dans un studio très proche, Clapton enregistrait lui-même quelque chose. Et donc il est venu faire le buff avec eux. Dans cet album, Clapton joue un peu de guitare. You made me puis t'as un Mick Jagger qui est très très bon à l'harmonica. Enfin là on est dans le blues quoi. Donc quand on me dit les Stones c'est un groupe de blues, aucun problème. La question que je me posais c'était mais bon sang, pourquoi McCartney définit-il les Beatles comme un bon petit groupe de blues?
Ouais.
Ça reste en suspens. Je te donnerai mon avis à la fin de l'émission.
Bon, de toute façon tu parlais d'une définition du blues, personne va être d'accord à 100%, mais il y a quand même 90% des morceaux de blues qui sont sur la base de 3 accords 12 mesures.
Oui.
C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure hors antenne, c'est par rapport au fait que le blues ça peut se jouer sans se concerter, à condition de respecter un certain nombre de choses, y compris donc ces fameuses mesures. Maintenant on peut très bien se faire signe, comme ne le faisait pas un certain John Newker par exemple, qui était absolument insuivable et qui se foutait de la gueule des musiciens qui n'arrivaient pas là-dessus, de toute façon c'était impossible. Mais si on veut vraiment jouer, collaborer ensemble pour jouer pour le morceau et non pas pour la compète, pour la rigolade, il faut rester sur les 3 accords 12 mesures. Après on peut démarrer un morceau n'importe quand, ça peut être à la fin de la grille, etc. Mais le blues c'est quand même une musique universelle, on est d'accord que même si on comprend pas les paroles, on sait qu'on a affaire à un morceau de blues, ne serait-ce que par les harmonies vocales, par l'instrumentation, etc.
Ouais, moi je suis d'accord avec cette définition, c'est exactement.
Mais bon, ça reste très sommaire, hein. Moi je donne le cadre, mais après
Puis ça facilite les choses quand tu veux faire un bœuf avec des musiciens que tu pars sur une grille blues, qu'elle soit plus rock ou plus blues.
Allez les gars, on fait un blues en
tout
là.
Tout le monde sait où il en est à chaque fois, donc c'est vraiment une musique de partage.
Et rendez-vous au tas de sable, exactement.
Absolument. Pour en revenir à la chanson elle-même, Yard Blues, c'est la chanson la plus désespérée, je pense que oui. John n'ait jamais écrite. Hein. C'était un appel à l'aide, angoissé.
Mais c'est pas pour ça que c'est un blues, hein, parce que tous les blues sont pas non plus des trucs cauchemardesques comme peut l'être ce Yard Blues.
Oui, hein. Oui. Enfin, souvent les blues ont une couleur assez triste, dans la vision du blues. Quand on dit j'ai le blues.
Ça, c'est une vision globale, une vision d'ensemble. Mais
d'ailleurs, George Harrison.
Si tu grattes un peu.
George Harrison écrira un morceau For You Blues.
Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl, for you.
Il dira de cette chanson, c'est un blues traditionnel avec tous les codes du blues, sauf qu'il est joyeux. Voilà, donc on peut aussi écrire des choses.
Mais il y a vraiment le blues joyeux, enfin voilà. C'est la définition même du blues de dire que c'est quelque chose de triste, mais ça n'est pas vrai.
Donc cet appel angoissé s'adressait d'ailleurs à Yoko Ono. Hein. Il savait que sa vie était un tournant décisif.
Parce qu'il était amoureux de Yoko Ono à ce moment-là, mais il était à des milliers de kilomètres. Quand il a créé ce morceau-là, il était à des milliers de kilomètres de l'Angleterre.
Oui, bien sûr, il se trouvait en Inde.
Oui, complètement.
Ah, ouais, absolument. Ouais. Et donc, il était certainement peu probable à l'époque que les Beatles remontent sur scène un jour. Leur manager Brian Epstein était mort. John envisageait à ce moment-là de rompre son mariage, parce que quand il a connu Yoko, il était encore avec Cynthia. Donc il se sentait des obligations envers Cynthia, sa femme de l'époque. Mais il avait trouvé Yoko Ono, la femme de sa vie, et son âme sœur, hein, tant sur le plan intellectuel qu'artistique. Hein. C'est la femme qu'il avait toujours rêvé de rencontrer. C'est à elle qu'il pensait dans la chanson Girl, par exemple, c'est ce qu'il dira.
Oui.
Il avait imaginé cette chanson et la femme qu'il imaginait dedans, finalement, il la rencontrera des années plus tard en la personne de Yoko.
Un an après.
Voilà. Donc, John admit beaucoup plus tard, d'ailleurs, que ce dilemme l'avait rendu suicidaire. Hein. Dans Yard Blues, il se compare en plaisantant, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait attention, il se compare en plaisantant à Mr. Jones, le personnage stupide de la chanson de Bob Dylan, The Ballad of the Thin Man.
You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here but you don't know what it is. Do you? Mr. Jones.
Paul McCartney, pour en revenir au blues, a évoqué sa relation notamment avec John Mayer, hein, qu'il avait décrit comme un homme adorable, un grand pionnier du blues dans les années 60. Il dit « Nous nous rencontrions dans les clubs de musique et en fin de soirée, nous allions chez lui où il avait une énorme et superbe collection
de disques. » Ça, c'était celle-là.
Ouais. Il était devenu son mentor. Hein, McCartney le considère comme un mentor. Et il m'a éduqué sur de nombreux guitaristes de blues qui jouaient à l'époque. Mm-hmm. Je m'installais dans un fauteuil et nous écoutions B.B. King, Buddy Guy, Albert King et Eric Clapton, qui jouera plus tard avec lui dans le groupe Blues Breakers.
Mais oui, les Blues Breakers de John Mayall, c'était précisément en 1966, pendant la sortie de Revolver, que Eric Clapton avait intégré pour quelques mois le groupe de John Mayall. Il vivait d'ailleurs chez John Mayall à cette époque-là.
Bien sûr.
Et puis tu parles de Clapton, ils ont quand même partagé Patty Boyd à un moment donné.
Oui.
C'est pour ça que Clapton avait écrit Layla.
Voilà. Absolument, il y a eu une belle histoire. En fait, c'est une assez belle histoire d'amour d'ailleurs.
Ouais,
c'est pas quelque chose de...
Presque de l'amour à trois.
Je dirais pas ça, mais il y a eu surmonter ce qui pourrait être, si on le disait bêtement, quelqu'un qui pique la femme d'un autre.
Oui.
Ils ont surmonté ça pour en faire quelque chose d'intellectuellement pas moche, tu vois. Il paraît qu'il y a une très très belle lettre qu'a écrit Eric Clapton sur Patty Boyd. Donc là, revenons donc à nos moutons, en particulier la relation entre John Mayer et Paul McCartney. Donc John Mayer se mettait à jouer et Paul dit je voyais apparaître les liens qu'il y avait entre tous les grands guitaristes dont John Mayer lui parlait. C'était pour moi une grande source d'enseignement que de constater la similitude entre tous les grands guitaristes. Voilà. John était un homme, il parle de John Mayer, hein. John était un homme charmant. Il venait comme moi du nord de l'Angleterre, ce qui a permis d'établir facilement des liens entre nous. Je le remercierai toujours. Là, c'est une petite dédicace hein, que Paul a... C'est un interview que j'ai trouvé de Paul.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai fait traduire par mon fils parce qu'il était assez long.
Une interview qui date d'avant la disparition de John Mayall.
Non, non, juste après, je pense.
Ah oui, parce qu'il est décédé en 2024.
Oui, c'était une interview assez récente.
Ouais. D'accord.
Il dit « Je le remercierai toujours pour son amour de la musique, du blues et pour la volonté de faire découvrir à d'autres ce qu'il savait. » Et je pense que dans le blues, il y a cette dimension de partage.
So hard to share the one you love with another guy. To share one you love with another guy. When she's with you, you fear your time will soon expire.
Bah, y a une dimension de passeur d'une manière générale.
Absolument,
hein.
Ouais.
Et ça, John Mayall, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais en tout cas, sûrement pas celle de la transmission.
Ah oui, tout à fait. Ouais. Et donc, pour répondre à la question mystère...
Repose la question, Jackie.
Oui, alors donc, Paul McCartney disant « Les Beatles, c'était un simple petit groupe de blues, un bon petit groupe de blues. » Que voulait-il dire par là, par cette expression? D'abord, c'est une phrase prononcée à un instant T, donc c'est ce qui lui est venu à l'esprit. Peut-être que s'il retravaillait sa phrase, peut-être ne dirait est-il pas cela. Mais ce que j'ai pensé, c'est que par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur les Beatles, dans leur écriture, dans leur façon d'approcher la musique, cette notion de partage, cette notion qui pourtant, Dieu sait si quelquefois les morceaux des Beatles sont pas faciles à jouer, pourtant écrits avec une certaine simplicité, tu vois. Et surtout, je pense que on a un peu touché ça du doigt quand j'en ai parlé à propos de la chanson Rocky Raccoon.
Mm-hmm. Rocky had come equipped with a gun to shoot off a lands of his rival.
C'est aussi cette idée de dire on met en musique nos émotions, ce que nous vivons, ce qui est à côté de nous, nos peines, nos joies, nos peurs, nos désespérances ou alors nos envies, etc. Et en fait, n'est-ce pas cela le blues? N'est-ce pas une musique que l'on fait sur laquelle on dépose nos états d'âme dans les premiers blues, hein? Alors évidemment, les premiers blues ont été écrits par des types qui devaient certainement avoir une vie pas simple. Et donc les premiers blues sont plutôt parlent plus de souffrance, de douleur, de vie sociale compliquée, etc. Après, ça changera un peu. Mais au fond, n'est-ce pas ça le blues? c'est-à-dire une musique au départ relativement simple, sur laquelle on dépose nos émotions.
Oui, la première partie, je suis entièrement d'accord. Après, il y a une dimension par rapport à ce que tu disais, par rapport à la tristesse qui émane du blues. Il y a aussi, et surtout, j'ai envie de dire, quelque chose de très positif qui est la possibilité de guérison. Un bluesman, c'est un healer, c'est un guérisseur. C'est un type qui va transformer ton corps et ton esprit après de l'avoir écouté jouer et chanter. Et il y a le pouvoir guérisseur du blues qui est là, donc qui a très bien décrit Johnny Hooker dans une de ses chansons. Et ça, c'est quelque chose d'absolument cathartique. Et c'est une dimension du blues qui n'échappe à personne à partir du moment où on le vit. Quand on sort d'un concert de blues, c'est impossible d'aller se coucher aussitôt. Il y a une énergie qu'on retrouve. Alors, on peut le retrouver dans d'autres styles musicaux, et bien sûr, tout dépend des vibrations de chacun. Mais le blues a surtout cette dimension-là de guérir son auditoire.
Mmh. Oui, je pense, c'est tout à fait ça. Donc, je pense qu'on est somme toute assez d'accord.
Bien sûr.
Après, effectivement, pour en revenir à ce que nous disions au début, on ne peut pas définir les Beatles comme un groupe de blues, comme on pourrait dire les Stones sont un groupe de blues, parce qu'il y a aussi cette construction musicale qui est récurrente.
Mais n'oublions pas que les Beatles ont commencé par faire des reprises de rock'n'roll, et par exemple Chuck Berry, on en parlait tout à l'heure hors antenne, Chuck Berry c'est un grand bluesman avant d'être un rock'n'roller.
Ouais, ouais.
Et puis des gens comme Fats Domino qui ont eux-mêmes repris les Beatles par la suite, eux aussi puisent toutes leurs racines dans le blues et ont toute leur légitimité à ça.
Bien sûr, les Beatles étaient très fans de tous ces types-là. Chuck Berry, n'oublie pas que John Lennon dira si le rock'n'roll s'appelait pas rock'n'roll, il devrait s'appeler Chuck Berry. Little Richard aussi, qui les a beaucoup inspirés. McCartney, et je te dis d'ailleurs, il détient les droits des chansons d'Ioli.
Buddy Holly.
Voilà, ouais. Buddy Holly. Et puis, ça c'est aussi une discussion que nous avons en aparté, j'en profite puisque je suis au micro pour le dire. Il faut quand même essayer de transmettre ça, et notamment aux plus jeunes, pour que ça perdure. Le blues, c'est la source.
Ouais.
C'est quasiment la source. Quand un jeune ne le sait pas, mais peut-être que quand il écoute maintenant un truc de rap, un truc de rock, de hard rock, ou même s'il se penche sur des groupes de notre génération, du type Led Zepp, du type Deep Purple, même Pink Floyd, tout ça, sans le blues, rien.
Ah, tu parles de Pink Floyd, David Gilmour est un très très grand guitariste de blues. Hein.
Ouais, ouais. D'ailleurs, j'invite à trouver un concert que Paul McCartney va donner dans le Cavern Club,
ouais,
où il ne fait quasiment pas de chansons des Beatles, mais que les reprises de ces gens qui les ont inspirés, hein, Little Richard, Chuck Berry,
etc. De quel disque tu parles, parce que c'est un disque live qui est sorti en 99 ou 2000.
Voilà. Et à la guitare,
absolument formidable.
Il y a David Gilmour.
Ouais.
Voilà. Et donc, le blues, c'est vraiment la source, ça a été le terreau fertile, extrêmement fertile, sur lequel tout est parti, quoi.
On est tous d'accord. C'est ce que disait Charlie Couture dans une interview tout récemment. Et par exemple, lui, son œuvre, même si c'est pas un bluesman à proprement parler, toute son œuvre en est imprégnée. Il y a énormément de gens comme ça, chez qui on ne soupçonne pas, mais le blues, il est en filigrane dans un tas de choses. Et puis même dans la vie courante. Enfin, t'allumes ta télé, t'écoutes n'importe quelle pub, une fois sur deux, t'as un truc qui vient du blues,
Départ. Bah, je trouve que ça devrait même s'enseigner dans les programmes scolaires, tellement le blues, parce que le blues c'est la musique, mais c'est aussi forcément un effet sociétal, c'est toute une génération de qui se sont approprié cette musique pour en faire d'autres musiques. Puis cette musique, elle a servi aussi à des tas de choses, à des supports plus ou moins révolutionnaires, etc. Donc en fait, le blues, c'est vraiment un élément fondateur de nos sociétés. Moi, je le pense.
Je suis d'accord avec toi. On écoute ce Your Blues avec ce chant désespéré de John Lennon, où il dit « J'ai envie de mourir le matin, j'ai envie de mourir le soir. » Voilà,
c'est quelque chose de c'est vrai, ça c'est suicidaire. Pour le coup du blues, c'est le coup de blues.
You know the reason why. You know the reason why.
Pour Your Blues, tu as choisi, Jackie, une reprise, mais qu'en est pas vraiment une. En fait, il y a des protagonistes de la version originale qui se sont fourrés dedans, entre guillemets, et on n'est pas tellement après l'enregistrement de la version originale. On reste en 1968, je crois.
Oui, tout à fait. C'est en fait un groupe éphémère qui s'appelle The Dirty Mac. C'est un groupe éphémère qui a été créé à l'occasion d'une émission qui s'appelait le Rolling Stone Rock'n'Roll Circus, qui est filmé d'ailleurs le 11 décembre 1968. C'est un groupe qui est composé de John Lennon à la guitare et au chant, Eric Clapton à la guitare, Keith Richards, le guitariste des Stones, qui se trouve à la basse, et Mick Mitchell à la batterie.
Le batteur de Jimi Hendrix.
Le batteur de Jimi Hendrix, du Jimi Hendrix Experience.
Un show qui a été conçu par Mick Jagger lui-même.
Voilà. Et la version, elle est, je le dis, mieux que celle des Beatles.
D'accord, on va écouter ça tout de suite.
Suicidal, even hate my rock and roll. I'm lonely.
Your Blues, donc avec cette version du Dirty Mac. On est le 11 décembre 1968 et à signaler que le fameux Rock'n'Roll Circus ne sera pas diffusé à la télévision comme c'était prévu au départ. Il a fallu attendre carrément 1996 pour un CD et 2004 pour un DVD. C'est bien longtemps, plus d'une génération après.
Des petits trésors qui réapparaissent comme ça, c'est sympa. Alors quand je dis mieux que les Beatles, la version est assez proche. Hein. De toute façon, c'est John Lennon qui chante et qui est à la guitare, donc ça pouvait pas être. C'est simplement, je pense que c'est l'effet du live et puis il y a quand même Clapton à la guitare derrière et puis Mick Mitchell, ça donne une petite impulsion au morceau. Voilà.
La prochaine fois, Jackie, on va se retrouver avec encore une petite partie du fameux medley Golden Slumbers. Pourquoi ce choix, dis-moi ? C'est un truc qui dure quoi, 2 minutes même pas ?
Alors il est pas très long, je pense qu'il faudra, faut bien le joindre. Alors, il est dans le medley, mais il faut le joindre vraiment à Carrie Zakouet.
Je dirais ça au mec qui s'occupe du montage.
Voilà, super. Carrie Zakouet, parce que, en fait, d'ailleurs, je crois, pour avoir lu le. Parce que j'ai chez moi des facsimilés des plans de travail des studios d'Abbey Road, et donc Golden Slumber, il est marqué sous le titre Golden Slumber, Carrie Zakouet.
D'accord.
Ils sont vraiment ensemble, voilà. Après la chanson, alors là, je vais dire un truc. Dès le début, le piano et la voix de McCartney, ça fait dresser le poil quand même.
Et ben d'ici l'épisode, écoutez l'album. Hein.
Et ben d'accord.
Salut Jackie.
Salut Marco.
Avec pas mal d'extraits dans ce 57e Beatles Song Story, il y avait d'abord les Beatles avec Your Blues, un tout petit extrait au début, et puis le titre à la fin bien sûr, The Rolling Stones featuring Eric Clapton avec I Can't Quit You Baby sur Blue and Lonesome, on était en 2016, The Beatles For You Blue, The Beatles encore pour Girl, La Ballade of the Thin Man de Bob Dylan, Derek and the Dominoes avec là encore Eric Clapton pour Layla bien sûr, John Mayall Hard to Share en guise de clin d'œil, et puis The Beatles à nouveau pour Rocky Raccoon, un titre qu'on avait déjà traité dans un précédent Beatles Song Story. Ensuite, Johnny Hooker et Carlos Santana avec The Healers, Chuck Berry, Johnny B. Goode, Pink Floyd, Any Color You Like, Paul McCartney avec David Gilmour et Ian Paice pour Whole Shook Up, et puis bien sûr ce Your Blues par The Beatles d'abord, puis Dirty Mac ensuite. On y va pour les incontournables.
Oh yeah. What can a man do?
Mama got mad at Papa. Cause it didn't bring no coffee.
Les incontournables, vous connaissez le principe bien sûr. Si vous avez un album que vous préférez par-dessus tout ou l'un de ceux-là, bien vous m'en donnez tout de suite les coordonnées. Et puis je vous le passe dans une prochaine émission. C'est un samedi sur deux dans Sweet Home Chicago. Et puis pour ça, rendez-vous soit sur le Facebook de Sweet Home Chicago, soit directement sur le site internet blues.radio.fr. C'est ce qu'a fait Vincent Pimery-Legrand. Il a choisi Oh Well, extrait de Live in Boston de Fleetwood Mac, première version. On est en 1970. Et ça donne ça.
Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to.
Now when I talk to God, I know he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answers that you want me to.
Avec Fleetwood Mac, c'était dans les incontournables grâce à Vincent Pied-Marie Legrand. On termine cette première heure déjà du 1282e Sweet Home Chicago avec Sad Eyes, extrait de Lookout Highway, le dernier album en date de Charlie Musselwhite sur 40 Below Records.
When she came walking in, you know, saw her right away. The way that she moved made me wanna say, you look so lonely. Your eyes are kinda sad. This ain't love, mama, but you know it really ain't bad. If you don't love me, won't you fool me good? We could have fun, honey. You know we should. You look so lonely. Your eyes are kinda sad. It ain't love, baby, but you know it sure ain't bad. Can't be with me, one that you love. Love the one you're with. Pretend that's enough. You look so lonely. Your eyes are kind of sad. It ain't love, mama, but you know it sure ain't bad. The long black night moves all through my room. Time to leave here, I better hit the road soon. You look so lonely. Your eyes are kinda sad. This ain't love, baby, but you know it really ain't bad.
Le grand, l'immense Charlie Musselwhite, Sad Eyes, extrait de Lookout Highway. C'est le disque du mois pour Sweet Home Chicago. On se retrouve pour la deuxième heure dans quelques secondes avec notre invité Nicolas D.E. des Mockingbirds.
Same old place, sweet home, Chicago.